un podcast France Culture.
Dès le début, une hypothèse est mise en avant. Un grand scientifique allemand qui s'appelle Pfeiffer a découvert une bactérie qu'on va trouver facilement dans les voies respiratoires. Mais cette bactérie, il considère qu'elle est responsable de la grippe et donc on va l'appeler Bacillus influenza. Influenza pour la grippe.
Deuxième épisode, la rocambolesque découverte du virus.
Jusqu'en août 1918, ce débat n'a pas lieu parce que on n'est pas intéressé. Ces épisodes de grippe dans les camps militaires n'ont pas fait énormément de morts. Ils ont été spectaculaires. Mais enfin, il n'y avait pas péril en la demeure. Et là, à partir d'août 1918, la situation est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieuse. Et donc, dans tous les pays, les scientifiques vont se mettre à chercher la cause de cette pandémie, de ces infections, ces grippes. Mais est-ce que c'est vraiment la grippe? On ne sait pas. Dans les pays d'Europe, la recherche va avoir quelques difficultés parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre, donc beaucoup de médecins, finalement, sont mobilisés pour la prise en charge des blessés. Et finalement, il y a peu de moyens, il y a un peu moins de moyens. Aux États-Unis, c'est un peu le contraire. C'est bien sûr que beaucoup de gens sont mobilisés. Mais la médecine américaine avait du retard sur la médecine européenne et là, elle a tout d'un coup la possibilité de se moderniser. Et donc, un certain nombre de scientifiques vont s'attaquer à ce problème. Donc, la première chose, c'est est-ce que c'est ce Bacillus influenzae, trouvé par Pfeiffer, qui est la cause de la grippe. Donc, logiquement, la manière de faire, c'est d'aller chercher sur les malades et puis éventuellement même sur les autopsies, d'aller chercher le virus et de regarder. Une bactérie et un virus, ce n'est pas la même chose. Une bactérie, ça se voit au microscope, ça peut se colorer, ça pousse sur certains milieux de culture. Globalement, c'est quelque chose qu'on peut toucher en quelque sorte. On peut voir, même si c'est difficile, un virus. Il n'est pas visible au microscope. On déduit son existence un peu par élimination. On filtre et il reste quelque chose. Et ce quelque chose donne une maladie et on dit c'est un virus. Il faudra longtemps encore avant de pouvoir voir les virus, par exemple en microscopie électronique. Est-ce que le Bacillus influenzae est l'agent de la grippe? Donc on cherche sur les prélèvements. Et au début, les prélèvements donnent pas grand-chose parce que en fait c'est une bactérie qui est exigeante en termes de facteurs pour pouvoir être cultivée. Et là c'est le piège. Qu'est-ce qu'on va trouver comme bactérie dans les poumons de personnes qui ont la grippe? Cette bactérie, ce Bacillus influenzae. Mais on va trouver aussi des pneumocoques, des streptocoques, des staphylocoques, qui donnent des infections pulmonaires graves. Alors le top du top, c'est Alexander Fleming, médecin britannique. Alexander Fleming met en culture une boîte de pétri et il y avait du staphylocoque. Et il regarde ça et tout d'un coup, il s'aperçoit au bout de 2 jours que quelque chose a inhibé la culture, a empêché le staphylocoque de pousser. Il le regarde de plus près, c'est un champignon, c'est une moisissure. Il l'appelle Penicillium. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il se dit pas « chouette, j'ai trouvé un truc qui tue les staphylocoques ». Il est tellement bloqué sur l'histoire « faut chercher le Bacillus influenzae » qu'il se dit « tiens, j'ai trouvé un truc qui va permettre de faire un milieu de culture permettant d'isoler plus facilement le Bacillus influenzae ». Ce pénicillium n'arrive pas à tuer le Bacillus influenzae. Et pendant 10 ans, ce truc-là, ce pénicillium, et sa vertu de tuer les staphylocoques, mais aussi les streptocoques, les pneumocoques, des tueurs terribles dans l'humanité, n'est pas pris en compte comme le futur antibiotique, la pénicilline, mais simplement comme un adjuvant qu'on met dans un milieu de culture pour avoir le Bacillus influenzae. Et quand même, avec l'aide de deux autres personnes plus tard, il obtiendra le prix Nobel parce que effectivement le pénicillium, quand même, c'était le premier vrai antibiotique qu'on a trouvé et qui avait des propriétés extraordinaires pour soigner plein d'infections. Mais on était tellement focalisé à l'époque sur le bacillus influenzae qu'ils ne se sont pas intéressés à cette propriété. Ils avaient devant eux un système où il y avait quelque chose qui empêchait des bactéries tueuses de pousser et ils se sont juste posé la question, ces bactéries, elles m'embêtent parce qu'elles ne me permettent pas de voir le bacillus influenzae. Alors, d'autres chercheurs avaient peut-être un passé qui pouvait les aider à trouver. En particulier, il y en a un qui s'appelle Paul Lewis. Il est déjà connu parce que il a démontré que la polio était une maladie liée à un virus. En filtrant toutes les bactéries, tout ce qui est un peu gros, il restait quelque chose qui provoquait cette maladie. Et il a même, grâce à ça, pu entraîner une immunisation qu'il a tenté chez les singes, et il a montré qu'il pouvait faire un vaccin contre le virus de la polio chez le singe. On n'en est pas encore au vaccin chez l'homme, il faudra pas mal de temps, mais il a trouvé cette première étape qui est une étape essentielle. Il est à Philadelphie, et il y a urgence. Il y a urgence, là, tout d'un coup, on est en août ou en septembre 1918, il faut aller vite, il faut trouver très vite le microbe et l'idée, c'est de l'injecter à des chevaux, leur faire faire un maximum d'anticorps, faire un sérum de traitement ou trouver un moyen d'en faire un vaccin. Aller très très vite. Et on peut pas se lancer dans une recherche en virologie à l'époque. On ne connaissait rien des virus, vraiment, on n'en avait que leur ombre en quelque sorte. Et donc, il choisit, comme pratiquement tous les chercheurs, d'aller dans le sens de mettre en évidence les meilleures conditions de culture, etc. Il va travailler là-dessus et finalement, il va se convaincre petit à petit que l'agent de la grippe, c'est bien Bacillus influenzae. Il continue à travailler, on n'avance pas de toute façon, la guerre se termine, la pandémie se termine, enfin à peu près, il reste toujours des cas. Et il repart sur d'autres thématiques comme la tuberculose, mais il garde un peu un œil là-dessus. Il se met à travailler avec un vétérinaire qui s'appelle Richard Schopp, américain, plus jeune que lui. Et ensemble, ils sont toujours en train d'essayer de trouver ce virus. Ils reviennent quand même là aux méthodes précédentes, c'est-à-dire se dire, ben, on va essayer de filtrer, donc... Et puis, les choses se passent pas trop bien pour lui parce qu'il n'arrive pas à trouver, c'est trop lent. Ses patrons commencent à trouver qu'il n'est pas si efficient que ça, alors qu'il est considéré comme vraiment un des plus intelligents. Enfin, vraiment, il impressionne par son intelligence. Et un peu en désespoir de cause, il part sur l'investigation d'une épidémie de fièvre jaune au Brésil. Il donne très peu de nouvelles et on apprend au bout de quelques mois qu'il est mort de la fièvre jaune. Que s'est-il passé? On pense à une contamination de laboratoire. Alors pourquoi je parle de Paul Lewis? C'est que malgré tout, il va découvrir le virus de la grippe, ou plus exactement, il va co-signer l'article qui découvre le virus de la grippe chez le porc avec Richard Schopp. Mais 2 ans après. Alors, il ne s'est pas aperçu qu'il avait découvert le virus de la grippe, mais les travaux qu'il avait menés n'étaient pas loin d'aboutir. Et quand ils ont abouti, ils ont mis en évidence le virus de la grippe. Mais là, on est en 1931 et il est mort en 1929. 2 ans après, utilisant les mêmes méthodes, des chercheurs anglais, il y en a un qui s'appelle Smith, c'est le premier auteur, vont publier un article montrant qu'ils ont enfin réussi à trouver le virus de la grippe chez l'homme, en utilisant les mêmes méthodes que celles publiées par Schopp et Lewis 2 ans avant. Dans cette galerie de portraits, je pense qu'il ne faut pas passer sous silence Oswald Avery. Lui, il va travailler sur ce bacillus influenzae. Il va réussir à trouver les bonnes méthodes, les bonnes conditions de culture. Il progresse très très bien. Il semble se dire, ben oui, ça doit être ça. Et puis, alors, il va faire une expérimentation, une première expérimentation, où il va isoler un bacillus influenzae. Et puis ensuite, il va prendre des bacillus influenzae chez d'autres malades. En fait, il s'aperçoit qu'il n'y a pas un bacillus influenzae, il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Avry a beaucoup travaillé sur le pneumocoque. Et sur le pneumocoque, on sait qu'il y a le pneumocoque type 1, le pneumocoque type 2, le pneumocoque type 3, etc. Donc ça ne l'a pas plus que ça étonné, mais ça l'a un peu désarçonné. Et là, il s'est dit, mais on cherche l'agent d'une pandémie, donc quelque chose d'unique. Et je tombe sur plusieurs choses. Donc c'est beaucoup plus probablement un germe qui vient profiter de la pandémie pour donner des infections que la cause initiale de la pandémie. Et finalement, il est un des rares à se dire c'est pas le bacillus influenzae. Mais par contre, il se met pas à la recherche du virus. Parce que lui, finalement, ce qu'il aimait, c'était le pneumocoque. Donc il travaille sur son pneumocoque. Il va mettre des années, creuser. Il s'aperçoit que les pneumocoques, il y en a qui sont dangereux. Ils ont une capsule autour d'eux, un peu comme les MMFs ont une petite capsule sucrée autour. C'est un sucre aussi. Et ceux-là sont dangereux. Par contre, des pneumocoques qui n'ont pas la capsule donnent peu de maladies. Le système immunitaire arrive bien à s'en débarrasser. Avry va passer des années à essayer de comprendre ce mystère. On est en 1944. Enfin, il publie le résultat de son travail avec deux collègues. Il découvre qu'une molécule qui avait été identifiée au 19e siècle, dont on se disait qu'elle ne servait pas à grand-chose, s'appelle l'ADN. Cette molécule est responsable de l'information que le pneumocoque non capsulé a pu récupérer depuis ses pneumocoques capsulés morts. Il a trouvé l'ADN qui est le secret de la vie, en quelque sorte. Tout passe par ces acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, c'est ça qui fait la vie. Il découvre la fonction de l'ARN. Et comble d'ironie, ça lui fait perdre le prix Nobel. Parce que sa découverte est tellement révolutionnaire, le jury Nobel dit quand même, là, faut vraiment être certain, on va prendre un peu de recul, on va voir ce qui se passe, etc. Quelques années après, Watson et Crick découvrent la double hélice et on est parti. C'est le début de la biologie moléculaire, c'est le début de la science moléculaire qui est maintenant la nôtre. Mais le temps que tout ça se fasse, le pauvre Oswald Avry est mort. Et donc, il est mort sans avoir le prix Nobel. On lui a donné plutôt son nom à un cratère sur la Lune. Quand on fait le bilan de ce qui a été trouvé, on a fini par trouver le virus de la grippe. D'abord, on l'a trouvé chez le cochon, on ne s'y attendait pas. Au moment de la pandémie, c'est passé chez l'homme et c'est passé chez le cochon. Donc, on l'a fini par le trouver, mais plutôt par un chemin détourné. C'est un vétérinaire, Richard Schopp, qui a trouvé le premier, le virus de la grippe. Et ensuite, c'est des auteurs anglais, mais ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, par contre, les recherches, si elles n'ont pas forcément abouti à trouver le virus de la grippe, ont permis de trouver des choses extrêmement importantes, en particulier l'ADN, qui est le secret finalement de l'information génétique et de la vie. Et incidemment aussi, même sans s'en apercevoir, Alexander Fleming a trouvé la pénicilline alors qu'il cherchait à isoler les bactéries qu'il pensait responsables de la grippe. On ne peut pas commander à un chercheur d'avoir un résultat particulier. Je crois que le chercheur doit chercher et doit s'intéresser encore plus aux résultats anormaux plutôt qu'aux résultats attendus.
En ce début de XXe siècle, grâce à cette course pour mieux connaître l'épidémie, on a donc ouvert la voie à deux révolutions, les antibiotiques et la génétique. La découverte du virus humain de la grippe va nous conduire vers un autre progrès notable, la prévention de cette épidémie saisonnière par la vaccination.